si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants, présentée par la Frapna, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Dans cet épisode, nous allons parler d'écologie de la santé, c'est-à-dire l'étude des liens entre les modifications de l'environnement et l'émergence de maladies infectieuses. Il est aujourd'hui difficile d'ignorer à quel point notre vie est intrinsèquement liée à celle des animaux, des plantes et des écosystèmes. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Si elle disparaît, c'est simple, nous disparaissons. Pourtant, 70% de la faune sauvage a disparu en une cinquantaine d'années en raison de la destruction des écosystèmes. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, dont un quart des mammifères. L'effondrement de la biodiversité ne cesse de s'accélérer. En cause, la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle, toutes ces activités humaines engendrées par cette hégémonie économique toute-puissante. Aujourd'hui, c'est la santé planétaire qui est menacée. Et par santé planétaire, on entend la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes comme un tout, comme une seule santé. Depuis les années 2000, l'humanité est confrontée à au moins une nouvelle maladie infectieuse par an. 70% d'entre elles sont transmises par des animaux aux humains. La dernière en date, la Covid-19. Alors certains diront, c'est simple, il suffit d'éradiquer les virus en exterminant les espèces qui nous contaminent. Oui, simple, mais absolument stupide, puisque c'est précisément la fragilisation des milieux sauvages, la disparition de la biodiversité, qui crée les conditions d'émergence de ces maladies. Alors pour en parler, je ne suis pas allée chercher très loin, je suis simplement allée dans le bureau d'à côté, qui est celui de ma collègue Léa Ramy. Léa travaille sur la complexité et s'intéresse aux réseaux d'interaction qui existent au sein des écosystèmes. Elle suit notamment les travaux de Sonia Keffi, une chercheuse de Montpellier, qui cherche à modéliser justement toutes ces interactions qui existent entre espèces. Et on va essayer de comprendre dans cette émission en quoi ces interactions ont un rôle à jouer dans l'émergence des maladies infectieuses. En parallèle, Léa a aussi programmé plusieurs projections du documentaire « La fabrique des pandémies » réalisé par Marie-Monique Robin avec Juliette Binoche. Un documentaire sur lequel j'ai vraiment entièrement basé cette chronique, donc j'en reparlerai en fin d'émission. Pour le moment, c'est au tour de Léa. On l'écoute. Léa, merci d'accepter cette interview.
Merci à toi de me recevoir, Lorraine.
Alors, ma première question va être assez large, hein, mais il faut un petit peu dégrossir le sujet qui est compliqué, on ne va pas se mentir. Donc, j'ai parlé tout à l'heure là, des zoonoses, qui sont les maladies transmises des animaux à l'homme. Et ces maladies, elles ont explosé au cours des 50 dernières années. Et comme on a commencé à le dire en introduction, ces maladies ont un lien indissociable avec l'extinction de la biodiversité. Est-ce que tu pourrais déjà un peu nous expliquer plus précisément quels sont ces facteurs communs d'émergence de ces maladies ? Pourquoi disparition de la biodiversité et maladies infectieuses vont de pair ?
Oui, alors effectivement, il y a des liens entre l'impact qu'a l'homme sur les écosystèmes et l'émergence des maladies. Et on a essayé, enfin les épidémiologistes de ces dernières dizaines d'années ont essayé de mettre en évidence ces facteurs communs d'émergence de maladies. Alors déjà, quand on parle d'émergence de maladies, ça peut être deux choses. Ça peut être soit qu'une maladie qui était déjà présente dans l'écosystème devient problématique alors qu'elle était avant à bas bruit dans l'écosystème pour une espèce. Ou alors, on parle aussi d'émergence pour des maladies qui existaient déjà chez certaines espèces et qui vont s'adapter à de nouvelles espèces. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand elles s'adaptent à l'homme. Effectivement, donc, il y a des points communs. Et un de ces points communs qui a été mis en évidence, c'est la déforestation. l'impact de l'homme sur les forêts. Quand l'homme fragmente les forêts, c'est-à-dire qu'il va construire des routes, des villes qui vont déstructurer une grande forêt qui avait une grande surface, les grands prédateurs qui vivaient dans ces forêts et qui ont besoin de ces grands espaces vont aller ailleurs, soit disparaître, soit ne plus aller à des endroits où ils allaient. Et on commence à le savoir maintenant, quand les grands prédateurs disparaissent, eh bien, y a des conséquences, puisque leurs proies vont proliférer. Le problème, c'est que ces proies sont souvent des réservoirs de maladies, comme les rongeurs, par exemple. Les rongeurs sont très nombreux dans les écosystèmes, et quand ils ne sont plus prédatés, quand ils ne sont plus mangés par ces prédateurs, eh bien, ils vont proliférer. Et quand ils sont porteurs de maladies, les maladies sont de plus en plus présentes, et ces rongeurs ne sont plus régulés. On peut prendre par exemple la maladie de Lyme, qui est une maladie qu'on commence à bien connaître puisque c'est une maladie qui touche les hommes et qui nous est transmise par les tiques. D'ailleurs, cette maladie peut avoir des conséquences assez dramatiques sur la santé humaine. Donc si vous vous faites mordre par une tique en forêt, on vous conseille d'aller tout de suite voir votre médecin ou une pharmacie pour vous procurer l'antibiotique de prévention contre cette maladie. Mais cette maladie, au-delà des tiques, elle a... une histoire dans l'écosystème forestier. Cette maladie vient d'une forêt qui est fragmentée et dans laquelle on n'accueille plus tellement de grands prédateurs ni de grandes espèces d'herbivores d'ailleurs. Et dans ces forêts, on a la souris à pattes blanches qui est l'espèce réservoir de la bactérie Borrelia burgdorferi qui cause la maladie de Lyme. Une espèce réservoir, ça veut dire qu'elle accueille la maladie mais qu'elle est porteuse saine, c'est-à-dire qu'elle ne va pas déclarer de symptômes. Cette souris donc ne se fait plus manger par personne et va donc se multiplier. Et c'est là que rentre dans l'histoire notre tique, puisque les tiques vont mordre différentes espèces, et entre autres la souris à pattes blanches. Et quand ces souris sont porteuses de la bactérie de la maladie de Lyme, les tiques vont elles aussi devenir porteuses de cette maladie. Et c'est ce qu'on appelle des vecteurs, les tiques. C'est-à-dire qu'elles vont mordre une souris qui est infectée, contracter la maladie, puis la transmettre à d'autres espèces. Moins il y a de prédateurs dans la forêt, plus il y a de souris, et donc plus les tiques ont de chances de mordre non seulement une souris, mais en plus une souris infectée par la bactérie. Et donc plus il y a de tiques contaminées par cette bactérie, plus quand elles mordent des humains, elles ont de chances de nous la transmettre. Autre exemple, des chercheurs ont constaté que des chauves-souris, qui sont aussi de grands réservoirs de virus et de bactéries, quand elles vivent dans des zones où il y a de la déforestation, eh bien elles subissent du stress et elles vont être immunodéprimées, ce qui va permettre au virus qu'elles portent de plus se développer et de se retrouver en plus grand nombre dans leurs excréments. Et la suite de ça, c'est que les animaux qui sont en contact avec ces excréments vont aussi contracter ces virus, donc ont plus de chances de contracter ces virus dans les zones déforestées que dans les zones non déforestées. Et ensuite, nous, après, si on chasse ces espèces, eh bien, on peut se retrouver aussi avec ces maladies. Et non, il ne suffirait pas de faire disparaître toutes les chauves-souris. Ce serait vraiment une catastrophe écologique parce que nous dépendons complètement d'elles. Notamment, elles mangent plein d'insectes comme des moustiques qui, eux aussi, sont des grands vecteurs de maladies. Elles pollinisent les plantes, elles mangent des insectes qui sont nuisibles pour l'agriculture. Bref, elles sont absolument vitales. On pourrait évidemment continuer encore avec d'autres exemples, il y en a plein, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, c'est la même chose, on a des activités humaines qui détruisent des écosystèmes, donc une perte de biodiversité et donc l'émergence de maladies.
Et si je reprends le cas de la maladie de Lyme, je me demande pourquoi le renard qui mange cette souris qui est porteuse de l'agent infectieux et qui a notamment contaminé la tique, pourquoi le renard, lui, ne se fait pas contaminer en mangeant cette souris ?
Le renard, lui, en fait, il n'est pas compétent. C'est-à-dire que la maladie ne lui fait rien, qu'il ne va pas la développer, il ne va pas tomber malade et les virus ne vont pas, enfin, la bactérie ne va pas se développer à l'intérieur de lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans les écosystèmes, c'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Puisqu'en fait, plus il va y avoir d'espèces comme le renard non compétentes, donc qui ne développent pas la maladie, moins la maladie va se développer. C'est un peu comme un cul-de-sac pour la maladie. Donc par exemple, une tique qui aurait mordu une souris à pattes blanches infectée par la bactérie de la maladie de Lyme, ensuite elle va mordre un autre animal, et dans une forêt très diversifiée avec plein d'espèces, elle va avoir le choix entre mordre une autre souris à pattes blanches ou mordre un sanglier, un chevreuil, un cerf, un blaireau, un renard, plein d'autres espèces. Et il se trouve que ces grandes espèces qui ont besoin de grands espaces, eh bien souvent elles sont non compétentes. contrairement à des espèces plus petites comme les rongeurs justement, qui elles sont généralistes et qui vont se développer et proliférer dans des endroits où il n'y a plus de prédateurs et dans des endroits assez détériorés d'un point de vue naturel. Donc finalement, ce qui ressort à travers cet exemple, là on a pris la maladie de Lyme, mais c'est la même chose pour toutes les maladies. Au-delà de savoir comment se transmet quelle maladie et quelles maladies vont émerger ou ont émergé, ce qu'il faut comprendre, c'est que la biodiversité en elle-même nous protège, puisque plus il y a d'espèces, plus les maladies vont être diluées dans les écosystèmes et plus nous serons protégés contre n'importe quel type de maladie qui pourrait potentiellement émerger des écosystèmes.
Avec l'exemple de la maladie de Lyme qu'on a bien détaillé, là, la contamination jusqu'à l'homme se fait par la tique, donc par morsure. On sait aussi que les moustiques sont des vecteurs d'agents infectieux par la piqûre. C'est le cas pour le paludisme, pour la dengue. Est-ce qu'il y a d'autres types de contamination qu'on retrouve de façon assez récurrente ?
Oui, il y a d'autres manières de se faire contaminer par des maladies zoonotiques. Il y a notamment la consommation d'animaux, donc qu'elle soit directe en mangeant des animaux qui sont contaminés. C'était le cas, par exemple, d'Ebola. Ou alors à travers l'élevage, en fait. Puisque la plupart des animaux qu'on mange aujourd'hui sont issus d'élevage intensif. Et il y a des transmissions de maladies qui se font à travers ces élevages. Si on prend le cas du virus Nipah, par exemple, donc le virus Nipah, il a émergé en Malaisie sur des zones qui ont été déforestées. Et en fait, ce virus, il était porté par des chauves-souris frugivores, donc qui mangeaient des fruits. Et ces chauves-souris vivaient en forêt, et quand on a coupé la forêt, elles ont dû trouver de nouvelles zones pour s'alimenter. Et il se trouve qu'en Malaisie, ils font beaucoup d'élevage de porcs, et ces porcs pèsent sous des arbres fruitiers. Donc les chauves-souris se sont retrouvées dans les élevages de porcs à manger les fruits, elles ont déféqué sur les fruits, sur les porcs, et ont transmis ainsi le virus Nipah aux porcs, qui ensuite l'a transmis à l'homme. Donc ça, c'est des ponts en fait qui existent entre la faune sauvage et jusqu'à l'humain en fait. Donc vu le nombre d'élevages et d'animaux d'élevage qui existent sur la planète, c'est vraiment un risque énorme. Si on ajoute à ça en plus la mondialisation, donc le fait qu'on bouge à la fois les hommes, les animaux dans tous les sens et à travers la planète, ça donne facilement des pandémies et il y en aura de plus en plus.
Bon, avec tout ça, on comprend un peu mieux le mécanisme. Et du coup, la question que je me pose, c'est avec toutes ces connaissances aujourd'hui qu'on a réussi à avoir sur les mécanismes qui favorisent l'émergence de maladies infectieuses, est-ce qu'aujourd'hui, on peut détecter, anticiper les prochaines pandémies qu'il va y avoir ?
Alors oui et non. En fait, on n'est pas exactement capable de prédire quelles maladies vont émerger et comment. Là, les histoires qu'on a racontées, on est capable de les raconter justement a posteriori, de retracer le fil des événements, qu'est-ce qui s'est passé. Mais par contre, de prédire exactement quelles maladies et où elles vont émerger, c'est compliqué. Par contre, il y a des zones qui ont été identifiées par des chercheurs qui sont plus à risque d'émergence de maladies. Et ce sont des zones où l'homme a un fort impact. Et ils avaient d'ailleurs mis en évidence la zone de Wuhan en Chine, bien avant que la Covid émerge. Donc, a priori, on peut se fier à leurs travaux. Mais en tout cas, ce qu'ils ont identifié, c'est surtout sur les zones tropicales. Les zones tropicales, elles sont à la fois très riches en biodiversité, ce qui veut dire aussi riches en pathogènes, en agents infectieux, en bactéries, en virus. Mais ce sont également ces zones qui sont les plus impactées par l'homme et où on fait le plus de déforestation, etc. Donc ça, ce sont les zones identifiées sur lesquels il faudrait être vigilant à l'avenir, et les épidémiologistes le sont. Maintenant, il suffit juste de les écouter un petit peu plus.
Bon, merci Léa d'avoir répondu à ces questions complexes et complètement vitales. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que chacun prenne conscience de cet enjeu de santé planétaire et qu'on puisse agir pour protéger la biodiversité.
Merci Lorraine.
Notre émission se termine. Une pensée à tous les insensibles, à ceux qui ne savent pas voir la beauté du vivant et qui ne réfléchissent qu'à travers le prisme de la croissance et du plaisir individuel. La menace pandémique serait-elle un argument suffisant pour réagir ? Ah non, pardon, j'oubliais, la technologie et le progrès seront nos grands sauveurs. Sinon, en attendant le prochain confinement, je vous invite vivement à découvrir le documentaire de Marie-Monique Robin, La fabrique des pandémies, qui explique tout cela en détail avec la merveilleuse Juliette Binoche. Nous, on se retrouve le 30 décembre pour la dernière émission de l'année 2022. À bientôt.